Vous avez sans doute remarqué que ce qu'on connaît en général le moins, c'est souvent ce qui va de soi. Hein? Les gens qu'on a tellement dans la tête, Calvin, je suppose qu'il n'y a pas un seul Suisse roman qui n'a pas déjà une idée en tête de Calvin. Je ne suis pas sûr que l'idée qu'il a de Calvin corresponde vraiment à la réalité de la spiritualité de Calvin. Et puis il y a un autre point, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on étudie les réformateurs, les anabaptistes, etc., etc., plus dans le domaine soit de la théologie, soit d'histoire, que dans le domaine de la spiritualité. Voilà, alors écoutez, je vais essayer de vous montrer en tout cas. Donc on commence, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, c'est pas le bon mot, mais à tout premier chronologiquement, tout honneur, voilà, par Luther. Donc peut-être qu'il faut rappeler très vite le contexte général de la réforme, donc je vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la réforme. Donc vous rappelez, on est dans une période de changement, changement au sens très général de la société qui évolue, angoisse du salut, une église catholique qui est en difficulté, on pourrait dire qu'elle n'est pas au mieux de sa forme à l'époque. Hein. Et quand vous pensez à l'église catholique à l'époque de la réforme, faites bien attention que toute l'église catholique que vous avez en tête souvent comme étant la vieille église catholique telle que vous l'imaginiez avant, c'est l'église d'après la réforme. Hein, c'est un concile de Trente qui va restructurer les choses, il y a la pédagogie catholique qui va se remettre en route, les séminaires qui vont se créer, tout ça c'est après la réforme. Hein. Donc avant la réforme, c'est pas la grande forme sur le plan spirituel, donc on pourrait dire, hein, dans l'église catholique, on verra que ça a des conséquences aussi pour les protestants. Donc voilà, il faut rajouter à ça qu'il y a les aléas de la politique internationale, qui facilite dans certains pays la prise de distance avec la papauté. Hein. Pouvoir politique, pouvoir religieux, tout ça, ça se mêle. Hein. Vous savez, entre un grand évêque et un grand prince, la différence n'est quand même pas à l'époque fondamentale. C'est l'époque de la Renaissance, donc c'est l'époque de la redécouverte des textes, du retour aux textes de l'Antiquité, du retour aux textes bibliques aussi, l'approche renouvelée de la Bible, donc, qui va être la... Un des piliers de la réforme trouve sa source à l'époque. Néanmoins, on pourrait dire que le vrai penseur chrétien de la Renaissance, ça ne serait pas Luther, ça serait plutôt Erasme. Hein? L'humaniste, au fond, l'humanisme chrétien, ça va être plutôt Erasme. Ce qui va déclencher la réforme, c'est une expérience spirituelle. Alors, il faut toujours savoir que quand il y a un grand, je vous l'ai peut-être dit il y a d'autres reprises, quand il y a un grand mouvement spirituel, comme la réforme a été un mouvement immense, il faut toujours qu'il y ait concomitance d'un tas de facteurs. Il y a à la fois, en général, la forte personnalité de quelqu'un, et puis il y a le fait que l'histoire a été telle à ce moment-là que l'étincelle a mis le feu aux poudres. Alors qu'à un autre moment de l'histoire, une personnalité semblable, voilà, aurait existé, et puis ça n'aurait pas eu de conséquences historiques. Là, au fond, il y a cet ensemble de choses. Donc Luther, né en 1483, mort en 1546. Si vous voulez voir les biographies de Luther, vous en avez plein. On va pas reprendre la biographie de Luther. Il faut simplement rappeler qu'il est moine augustin, et donc à ce titre augustinien. Hein, donc moine augustin, c'est l'ordre, mais augustinien de sensibilité très fortement. Et la réforme va être un retour à saint Augustin. Aussi très largement, et qu'il est théologien de son métier. C'est pas un moine perdu au fond de son cloître, c'est un moine qui enseigne la théologie, qui enseigne la Bible. Et c'est donc dans ce contexte que va s'inscrire sa découverte, spirituelle donc, qui va donner, j'ai envie de dire involontairement, naissance et à la réforme et aux églises protestantes. Si je dis involontairement, c'est parce que Luther s'est pas un jour levé en se disant tiens je vais créer une église. Il faut toujours se rappeler que Luther est un moine catholique faisant son boulot de moine catholique professeur de théologie qui a abouti à un conflit qui s'est fait virer à l'église. Voilà, il n'y a pas une volonté en quelque sorte de création d'une église. Alors le premier point que je vais aborder bien sûr, hein, qui est un point essentiel quand on pense à Luther, c'est la question de la justification par la foi. Pour les protestants, on sait que voilà, le socle, le pilier, je ne sais pas quoi, l'essentiel de la réforme à certains égards, hein, la doctrine, disait-on, par laquelle l'Église tient ou tombe, si vous dites ça en latin, ça fait encore plus avant, c'est la justification par la foi. Il faut avoir conscience que la justification par la foi, c'est d'abord une expérience spirituelle. On est habitué souvent à voir dans la justification par la foi un élément de la théologie protestante. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler que c'est secondairement de la théologie. C'est d'abord une expérience spirituelle, une expérience personnelle, celle de Luther comme individu, et une expérience personnelle qui a cette capacité de se communiquer. Vous verrez, chaque fois qu'il se passe, il y a des tas de gens qui ont des tas d'expériences spirituelles. Et quand il y a des réveils, c'est que, ou quand il y a un grand mouvement, c'est que pour des raisons X, c'est aussi bien vrai de François d'Assise, que de Wesley, que de tout un tas de gens, pour des raisons X multiples, finalement, l'expérience spirituelle de quelqu'un se répand et se communique et répond finalement à une attente. Donc ça, c'est le cœur de la réforme, on pourrait dire, et de toute spiritualité classiquement protestante. Et au fond, cette dimension-là, elle va jouer pour Luther, elle va jouer pour la tradition calvinienne, etc. Elle va jouer pour les anabaptistes, elle va jouer pour le réveil, elle va jouer, voilà, tout ce qui est protestant. Et, j'ajouterai en même temps, c'est la redécouverte de quelque chose qui est fondamentalement chrétien. Et c'est pas le lieu, si ça vous amuse, je vous dirai ça plus tard dans les questions, mais on pourrait trouver, par exemple, chez Thérèse de Lisieux ou d'autres, de magnifiques expressions de la justification par la foi. Et c'est pas non plus, pas croire que les protestants ont inventé, ils sont les seuls à défendre ça. La justification par la foi, je dirais, ne va devenir qu'ensuite un article de dogmatique, et lorsque une certaine orthodoxie protestante va limiter la justification par la foi à l'article de dogmatique, alors l'Église aura commencé à perdre une bonne partie de sa force, une bonne partie de l'impact spirituel de la réforme, et on verra que chaque fois qu'il y a un réveil, ça va être un retour en général à cette source. Alors, il y a la crise de Luther, crise existentielle et la découverte spirituelle de Luther. Luther est un moine qui cherche à vivre sa vie de moine le plus honnêtement possible, le plus rigoureusement possible. Or, Luther est un moine inquiet. Ce qui est tout à son honneur, hein, Luther. Quand on dit que c'est un moine inquiet, c'est-à-dire, c'est l'air du temps aussi. Il y a une anxiété, il y a une angoisse assez généralisée dans la population sur le salut. Là, je crois qu'il faut qu'on essaie de se mettre dans un contexte culturel qui est loin d'être le nôtre. Hein? Très, très honnêtement, l'angoisse du salut n'est quand même pas l'angoisse première et fondamentale de tout un chacun dans la société. On en trouve des gens comme ça, mais voilà, ils sont déjà bien christianisés. À l'époque, voilà, ça jouait, et au fond, la démarche de Luther n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Luther n'arrive pas, d'une certaine manière, à accepter comme une grâce le chemin qui lui est proposé. Il y a des tas de bons moines à l'époque. Des tas de mauvais aussi sûrement, comme toujours. Je veux dire, Luther n'était pas le seul dans un océan d'apostasie du tout. Hein. Mais pour des tas d'autres personnes, ils avaient une capacité de recevoir de la tradition, peut-être des traditions qu'on a vues, par exemple, récemment, ou bien de leur pratique spirituelle, de leur lectio divina, etc. Au fond, une parole qui suffisait à les faire vivre. Au fond, chez... et d'autres, je pense à des gens comme Staupitz, qui est quelqu'un avec qui Luther va avoir des correspondances, etc., ont sûrement une attitude peut-être plus équilibrée que Luther, d'une certaine manière, dans la même situation. Mais au fond, c'est la radicalité de Luther, c'est la radicalité de l'angoisse, mais c'est de l'angoisse existentielle, hein. C'est la radicalité de l'expérience de Luther qui va déboucher sur une expérience spirituelle qui va permettre de dépasser les limites de la spiritualité qui étaient proposées à l'époque, et finalement qui va permettre d'ouvrir une porte à ce qu'il va considérer comme la redécouverte de la pensée paulinienne, et beaucoup plus largement, je dirais, la redécouverte de l'Évangile. Et alors je crois qu'il faut essayer, quand on est protestant, de bien prendre conscience que c'est effectivement une redécouverte de l'Évangile, mais je dirais aujourd'hui, vous avez des commentateurs de Luther qui sont des catholiques, des théologiens catholiques qui disent au fond, cette démarche-là, on l'accueille complètement aujourd'hui. Donc ne prenez pas les séparations, les clivages, les oppositions frontales qui ont lieu au XVIe siècle comme étant des oppositions frontales qui perdurent aujourd'hui sans que ça ait bougé. Beaucoup d'eau a passé sous les ponts, sous les ponts de la théologie donc en particulier. Alors, il raconte cela, il dit ceci. Au couvent, nous avions assez à manger et à boire. Mais le cœur et la conscience souffraient le martyre et les souffrances de l'âme sont les plus douloureuses. J'ai été souvent effrayé par le nom de Jésus. Et quand je le regardais sur la croix, je croyais qu'il était pour moi comme la foudre. Je croyais qu'il me fallait faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elle rendu favorable. Au couvent, je ne songeais ni à l'argent, ni au bien de ce monde, ni aux femmes. Tentations éternelles des moines, et pas seulement des moines. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il pourrait se rendre Dieu favorable. Vous vous rappelez, sur le tympan des églises, hein, vous avez souvent le Christ en majesté, juge avec les apôtres autour, etc. Donc, le Christ qui est censé être médiateur entre Dieu et les hommes, au fond, apparaissait à Luther et apparaissait à beaucoup de gens. C'est une des raisons du développement de la piété mariale, je crois, en grande partie, hein, comme étant justement le juge terrible qu'il fallait déjà, pour lequel il fallait déjà avoir un médiateur ou une médiatrice pour rentrer en bonne relation. Alors, on va dire, voilà, ça c'est une vision de Dieu tout à fait terrible. Faisons attention que ce genre de vision de Dieu, un Dieu terrible, un Dieu juge, un Dieu grand flic cosmique, gendarme, etc., au fond, ça continue à fonctionner. Hein? Et ça continue à fonctionner très souvent dans la tête et dans le cœur de gens qui intellectuellement sont tout à fait au clair et ont des idées beaucoup plus saines. Mais ça peut continuer à fonctionner. C'est ce qui fait que cette découverte de Luther, c'est pas simplement, je dirais, anecdotiquement, historiquement, un truc intéressant. C'est quelque chose qui est, je crois, fondamental pour une expérience spirituelle profonde. Donc cette souffrance spirituelle devant Dieu, comment finalement être en règle avec Dieu? Luther va l'exprimer à de nombreuses reprises. Et c'est elle, je crois, qui va expliquer l'expérience de la tour, entre guillemets. L'expérience qui est connue sous le nom de l'expérience de la tour, qu'il faut dater de 1512 ou 1513. Et vous savez, si c'est fondamental, ça, je rajoute un point, pour bien souligner la permanence de ce genre de choses, c'est qu'au fond, si vous n'avez pas une juste idée de la grâce, au fond, il n'y a que deux solutions par rapport à Dieu. Soit finalement, vous rabaissez l'exigence jusqu'à un truc sympa et pas trop dangereux, hein, du genre, au fond, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je fais tout ce que je peux, ben voilà, Dieu va pardonner, c'est son boulot, au fond. Ou alors, vous rentrez dans, c'était le cas de Luther, une sorte de dépression spirituelle, vous êtes écrasé par la majesté divine. Donc, cette juste conscience de la grâce, je crois qu'elle est au cœur de toute spiritualité chrétienne pertinente. Alors, il raconte son expérience. Il dit ceci. Cette année, j'avais entrepris pour la seconde fois, donc il est prof, rappelez-vous, l'interprétation des psaumes, et je pensais y être mieux préparé après avoir traité entre-temps les épîtres aux Romains, aux Galates et aux Hébreux dans mes cours. J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'épître aux Romains au premier chapitre, là où il est dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Car jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à la comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. C'est la justice du juste juge, hein. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais, et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant, n'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères, et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de la loi? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'évangile, et que même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère? J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul, dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais jour et nuit, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître. Et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait exprimer de façon analogue. La puissance de Dieu, par laquelle il nous donne la force. La sagesse, par laquelle il nous rend sages. Le salut, la gloire de Dieu. Autant j'avais détesté ce mot de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux, et c'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Voilà, raconté par l'auteur, par celui qui a vécu ça, au fond, cette expérience qui va devenir, vous avez dans l'histoire de l'Église des expériences qui deviennent quasiment des normes, hein, une tradition. Ben, c'est vrai que voilà, pour le protestant depuis Luther, on pourrait dire que cette expérience-là, elle a été quand même très fortement une expérience normative. Donc, c'est une expérience qui est une expérience exégétique et existentielle. Hein. C'est le professeur du Nouveau Testament qui prend conscience, finalement, d'un sens nouveau d'un texte. Et puis, en même temps, c'est pas juste une expérience intellectuelle. Hein. C'est une expérience qui touche les tripes, qui transforme complètement la vision que Luther a de Dieu, et donc la vision que Luther a de l'Évangile, etc., et de la vie chrétienne, etc. Donc, c'est le coup d'envoi de la Réforme, compris comme un autre regard sur l'Évangile lui-même, un autre regard sur la grâce, et surtout donc un autre regard sur Dieu. La foi, don de Dieu, nous fait entrer de plein pied dans la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à mériter. Tout est don. On n'est plus dans la situation où finalement, devant l'ampleur de l'exigence, ce que je vous disais tout à l'heure, soit je vais réduire l'exigence à quelque chose de médiocre pour pouvoir être tranquille, soit devant l'ampleur de l'exigence, au fond, je suis complètement écrasé. Là, je prends conscience qu'il y a cette exigence, mais finalement, la grâce, c'est la grâce de l'amour de Dieu qui fait grâce. C'est la grâce du Dieu qui pardonne, du Dieu qui vient lui-même en Jésus-Christ. Plus d'efforts désespérés à faire, tout a déjà été accompli par grâce, par Dieu, sur la croix. Là, c'est le juge qui lui-même se donne pour le salut des hommes. Et nous n'avons qu'à, mais le qu'à, recevoir avec reconnaissance ce pardon et cette vie nouvelle que Dieu accorde à celui qui croit. Alors, c'est ce qu'exprime très bien Mélenchon. Mélenchon, c'est le bras droit de Luther. C'est le théologien à côté du volcan. Vous savez, le tempérament de Luther est un tempérament volcanique, hein, pour le meilleur et pour le pire. Ça explique que tout dans Luther n'est pas d'égale valeur. Hein. Il y a des gens comme ça sont des gens admirables, mais il y a des fois où ils auraient peut-être mieux fait de se taire. Et à côté de Luther, à côté d'un génie, on pourrait dire, vous avez Mélenchon qui est le sage, hein, qui est le théologien, philosophe, sage, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus œcuménique, on pourrait dire, hein, cherchant à arrondir en quelque sorte les angles, mais précisant aussi beaucoup. Et il y a une formule que je trouve très belle, qui est la définition de la foi dans l'apologie de la confession d'Augsbourg. C'est-à-dire, la confession d'Augsbourg, c'est la grande confession luthérienne, et Mélenchon a écrit l'apologie, donc la défense de la confession d'Augsbourg. Alors voilà, vous trouverez la référence. Si certains d'entre vous ont les gros textes, vous savez, les textes confessionnels luthériens, faites attention, ça c'est la traduction à partir de l'allemand et pas à partir du latin. Voilà, les nuances. Bon. Mais écoutez ce texte que je trouve assez beau. La foi, donc. C'est l'assurance, la forte et sûre persuasion du cœur, par laquelle je tiens pour vrai de tout mon cœur la promesse divine de m'accorder sans que je le mérite le pardon des péchés, la grâce et le salut par le médiateur Jésus-Christ. Et pour que nul ne s'imagine qu'il ne s'agit là que d'une pure connaissance historique, j'ajoute ceci. Par la foi, je reçois de tout mon cœur le trésor qui m'est offert. Et cette foi n'est pas quelque chose que j'offre à Dieu. La foi n'est pas une œuvre méritoire, mais c'est la disposition d'un cœur qui se fie entièrement au don que Dieu lui accorde. Ce n'est pas nous qui offrons à Dieu le don de la foi, c'est lui qui nous comble des bienfaits de la grâce de Christ. Donc je trouve que c'est un texte tout à fait magnifique qui exprime bien que donc la foi, ce n'est pas le fait de croire en, ce n'est pas le fait d'adhérer intellectuellement à un certain nombre de choses, mais c'est finalement cette confiance que je fais à Dieu et à l'amour de Dieu. Et ça n'est pas, ça c'est important parce qu'on a toujours besoin de se rappeler, ce n'est pas une œuvre méritoire, c'est quelquefois... On a toujours eu tendance dans le « nous sommes sauvés par la foi », qui fait que finalement, il y a une œuvre méritoire qu'il faut absolument faire, c'est croire. Et c'est parce que je crois d'une certaine manière que je suis sauvé. Or, ce que dit Mélenchon, donc au tout début de la réforme, c'est bien, c'est pas une œuvre, c'est la main tendue, c'est le oui qu'on dit en recevant finalement un cadeau qui nous est fait. Donc cette expérience de la foi, cette expérience de la grâce, c'est les deux éléments qui s'articulent, on verra demain, que finalement, dans le protestantisme, chaque fois qu'il y a eu un renouveau, presque chaque fois qu'il y a eu un renouveau, tous les réveils classiques, on pourrait dire, ça a été une réactivation, on pourrait dire, de cette expérience fondatrice. Alors, ça c'est le point de départ, cette justification par la foi, mais bien sûr, cette justification par la foi, elle va être intimement liée, cette expérience, à la parole de Dieu. Pour Luther, vous rappelez, cette expérience, elle est liée non pas à la réception d'une tradition spirituelle qu'il avait reçue, mais à la découverte bouleversante, précisément, du décalage qu'il y avait entre le texte biblique et puis la routine, en quelque sorte, et puis la lecture, les rails de lecture qui étaient déjà imposés. Vous voyez, quand il dit non pas comme tous les docteurs, tous les enseignants qui disent comme ça. Et là, je crois que c'est quelque chose de très important, parce que, vous savez, il n'y a pas que les catholiques du XVIe siècle qui ont des rails de lecture biblique. Et la tradition, et quand un catholique lisait la Bible, il la lisait avec dans la tête toute une tradition. Mais il suffit de très peu de temps pour s'en faire une tradition. Et nous, depuis le XVIe siècle, on n'a pas arrêté d'en réinventer. Donc méfiez-vous de ces rails. On lit toujours la Bible à travers une interprétation déjà préexistante qu'on a dans la tête. Et donc, c'est par cette lecture, ce côté bouleversant de la lecture, que Luther a reçu cette conviction. C'est surtout par elle, par cet évangile, que Dieu s'adresse à tout être humain pour lui dire qui il est et pour lui dire l'amour dont il est l'objet. Alors, il dit ceci. Il écrit cela dans... La liberté du chrétien. C'est un texte que je cite très souvent, c'est un des plus magnifiques textes, je trouve, de Luther. Il dit, mais on demandera, quelle est donc la parole qui accorde une si grande grâce? Et comment dois-je en user? Réponse, ce n'est rien d'autre que la prédication faite par le Christ, comme la contient l'Évangile. Celle-ci doit être telle, et telle elle est en effet, que tu entendes ton Dieu te dire que toute ta vie et tes œuvres ne sont rien aux yeux de Dieu, mais que tu es destiné à la perdition éternelle, ainsi que tout ce qui est en toi, Si tu le crois vraiment, comme c'est ton devoir de le faire, il te faut désespérer de toi-même et reconnaître causer à raison de s'écrier « Ô Israël, tu n'as rien en toi qui ne soit ta perte, mais c'est moi seul, c'est en moi seul qui est ton secours. » Mais pour que tu sortes de toi-même et échappes à toi-même, c'est-à-dire à ta perdition, il te présente, en même temps, il te présente son cher fils Jésus-Christ, et te fait dire par sa parole vivante et consolante que tu dois t'abandonner à lui avec une foi robuste et lui faire hardiment confiance. Alors, à cause de cette foi, tous tes péchés seront pardonnés, tu triompheras de tout ce qui te perdait et tu seras droit, véridique, apaisé, juste et tu auras accompli tous les commandements, tu te seras libéré en toute chose. Alors, je reviendrai sur la parole, mais je trouve que raconté là-dedans, il y a au fond, quelque chose qui est aussi tout à fait essentiel dans l'évangile tel que le comprend Luther. Mais après, pas Luther tout seul. Au fond, chez Luther, la parole, je reviendrai à d'autres occasions, il y a toujours une dimension dialectique. Il y a deux choses, quand on dit dialectique, c'est pas un mot savant pour faire bien, c'est simplement pour dire qu'il y a deux choses qui sont vraies en même temps, qui sont vraies l'une avec l'autre et jamais l'une sans l'autre. Et on voit bien dans ce texte, et finalement, la parole de l'Évangile, c'est la parole qui en même temps, et on croit en temps, vous vous rappelez quand je vous avais lu, quand je vous avais parlé de Tolère, je vous avais lu un texte de Luther disant que Tolère c'était vraiment le truc. Et on retrouve, je trouve là, des consonances avec la spiritualité de Tolère, de Bétricard, etc. C'est finalement l'Évangile qui me fait prendre conscience que je ne suis rien. Et en même temps, en me disant que je ne suis que néant, que je ne suis que rien, et il faut que j'en prenne conscience pour que je sorte de moi-même, je renonce à moi-même, je me détache, etc., en même temps, il me dit que tout m'est donné. Et j'ai l'impression que notre drame chrétien universel, je dis notre à nous qui sommes réunis ici, mais je crois que ça fait 2000 ans qu'on a ce problème et qu'on va le garder, c'est au fond toujours la médiocrité. C'est au fond que dans l'Évangile, on veut à la fois pas entendre qu'on est vraiment rien, mais quand même qu'on est quand même quelque chose de pas si mal que ça, au fond, et pas non plus que tout est donné, mais que quand même, voilà, il faut bien qu'on mérite un peu quelque chose. Ça fait quand même plusieurs siècles depuis Luther qu'on réinvente régulièrement en tant que bon protestant de quelque confession que ce soit, le salut par les œuvres, d'une manière ou d'une autre, à faire passer sous la table la chose qu'on a enlevée. Donc oui, c'est quelque chose qui est profondément, je crois, enraciné dans notre nature humaine. La gratuité de la grâce, voilà, ne nous est pas naturelle. C'est pour ça qu'on réinvente toujours. D'où la nécessité, donc, de se nourrir de cette parole, de méditer cette parole sans cesse. Et pour la réforme, elle va cesser d'être un chemin de spiritualité parmi d'autres. La Lectio Divina, vous rappelez, au fond, c'est déjà, tout est dans la Lectio Divina, au point de vue de la pratique de l'écriture. Mais la Lectio Divina, il ne faut pas croire que c'était quelque chose de tellement répandu, c'était les moines qui vivaient ça, à l'époque. Et le commun des mortels et des chrétiens, au fond, étaient très loin de ça. Donc, pour la réforme, la lecture, la méditation, la prière de la parole de Dieu, cesse d'être un chemin de spiritualité parmi d'autres pour devenir le chemin. Parce qu'elle est la parole que Dieu m'adresse, que Dieu adresse à son peuple, que Dieu adresse à tous les chrétiens. Pas que Dieu adresse à l'archevêque, au théologien, ou au pasteur, etc., mais que Dieu adresse à chaque personne. Et comme, au même moment, providence divine, mais aussi, je dirais, coïncidence de l'histoire, mais coïncidence, je dirais, l'un permet l'autre, comme l'imprimerie vient d'exister, comme le texte biblique commence à pouvoir être multiplié, au fond, le rapport à l'écriture va être chamboulé. Mais il est chamboulé non seulement à cause de la pensée de Luther, mais aussi parce que vous auriez pu dire tout ce que vous auriez voulu avant, dire il faut que chaque chrétien ait sa Bible, mais une Bible c'était un énorme machin qui était copié par des moines à la main. Donc, je veux dire, c'était plus facile à dire qu'à faire, quoi. Et donc la Bible était forcément, même pour la plupart des moines, une parole que je méditais parce que je devais d'abord la mémoriser. Et je n'avais pas ma Bible dans ma chambre. Voilà. Avec l'imprimerie, finalement, la diffusion de la Bible devient quelque chose de beaucoup plus facile. Et il faut toujours garder à l'esprit que protestantisme et imprimerie, réforme en tout cas, et imprimerie, j'espère que le protestantisme n'est pas lié à l'imprimerie jusqu'au bout, ce serait dangereux aujourd'hui, mais je veux dire, réforme et imprimerie en tout cas, en la matière vont de pair. Et nous devons méditer cette parole avec une grande humilité. Pourquoi avec une grande humilité? Parce que, et ça, tous les protestants que nous sommes pour la plupart n'ont pas forcément intégré ça, parce qu'elle sera toujours au-delà de notre compréhension. Parce que sa richesse dépassera toujours les découvertes que nous pourrons en faire. C'est la tentation protestante, hein, je dirais, d'avoir sa Bible sous la main comme un manuel, comme un manuel doctrinal. C'est-à-dire que je vais retrouver dans la Bible, je sais où sont les versets qu'il faut, plutôt que j'ai été à la faculté de théologie ou à l'institut biblique ou que j'ai suivi un catéchisme efficace, donc je sais à quel endroit je vais retrouver les arguments pour les doctrines que j'ai apprises être les doctrines justes. Toute ressemblance avec une pratique existante ou ayant existé serait logée une pure coïncidence. Mais voilà, c'est contre ça, je dirais, que Luther insiste en disant la parole sera toujours au-delà. La parole, c'est la parole que Dieu m'adresse et c'est pas le recueil de textes que je peux manipuler. Et alors il écrit ceci. Il dit méditer. Méditer signifie donc apprendre à connaître intérieurement les communications de Dieu comme des images voilées de ce qui est à venir. Car celui qui ne comprend pas l'Écriture dans un sens provisoire, comme une réalité annonciatrice des choses à venir, et qui ne travaille pas pour l'avenir, et ne demeure pas conscient du fait qu'il lui manque encore toujours quelque chose, en vue de la vraie compréhension et de la véritable action, celui-là n'admet pas véritablement que l'Écriture est une communication du Seigneur. Ainsi donc, jusqu'à ce que commence la vie future, il reste toujours quelque chose à comprendre et à faire. C'est pourquoi on ne doit jamais être présomptueux, comme si on était déjà rassasié, riche et plein. Tu trouves toujours devant toi des communications au sujet des choses que tu n'as pas encore comprises ni faites. Et tu aurais toujours dû désirer plus et atteindre davantage pour agir et comprendre. Comme il était dit plus haut, mon âme désire toujours tes communications. Donc, vous voyez que ça s'inscrit à merveille, je dirais, dans cette dimension de la Lectio Divina, qui ne cherche pas simplement à se rappeler d'un certain nombre de textes bibliques pour bien emmagasiner un certain nombre d'arguments à ressortir, mais une parole que je dois recevoir du cœur, hein, méditer, pour en faire ma prière, pour qu'elle descende en quelque sorte toujours plus profondément. Et elle va être toujours nouvelle, d'abord parce qu'elle est parole de Dieu, mais aussi, et que je ne vais pas faire le tour, mais aussi parce que moi je suis toujours nouveau. Je veux dire, je suis toujours, elle s'adresse toujours à moi dans la situation dans laquelle je suis, et je ne suis plus aujourd'hui dans celle où j'étais hier. Et chaque fois que je vais, vous pouvez lire 100 fois, passer 100 fois sur un texte, puis la 101e fois, brutalement, vous le savez par cœur ce texte. N'empêche que vous allez entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Parce qu'avant, vous n'étiez pas apte, j'ai envie de dire, à l'entendre. Maintenant, vous pouvez, voilà. Ce n'est pas que l'Écriture qui fait ça, mais voilà, c'est vrai, je dirais tout particulièrement pour l'Écriture. Donc, ce travail de, et ça pour nous c'est très important, de renouvellement de notre goût pour l'Écriture. Je crois que c'est le grand risque. Et alors, quand on étudie en théologie, c'est pire encore. Et quand on est un chrétien qui lit sa Bible depuis très longtemps, c'est pire encore, hein, c'est finalement le danger de l'habitude. Et quand on commence à lire un texte, on commence déjà à s'embêter parce qu'on sait déjà tout ce qu'il y a dans le texte, on a l'impression qu'on sait tout. Et donc on le lit et à la fin de la lecture, on s'aperçoit presque qu'on n'a plus fait attention à rien. Vous savez, un peu comme le Notre Père, quand vous êtes tellement habitué à dire Notre Père que si vous ne faites pas très attention, au fond ça coule, pjoups. Vous vous apercevez que vous avez dit un truc sans prêter attention. C'est le danger de trop bien connaître l'Écriture. Ça ne veut pas dire appliquez-vous à ne pas la connaître. Mais appliquons-nous, je dirais, à renouveler. Et il y a beaucoup de choses. Je crois que la pratique de la Lectio, au sens de la Lectio Divina, est, je crois, quelque chose qui renouvelle cette lecture. La, la, lire dans des traductions différentes, etc. Il y a beaucoup de manières, mais je crois que cette dimension de l'écriture comme le texte, non pas dans lequel je vais retrouver par définition les choses que je sais qu'elles s'y trouvent, mais la parole qui va me dire quelque chose toujours de nouveau. Alors, quelle est la situation du chrétien pour Luther ? On pourrait dire pour lui que la situation du chrétien pourrait presque se résumer entièrement à la foi. Tant celle-ci porte les promesses et les réalisations de tout. C'est en effet par elle, par la foi, et donc par Dieu et par le Christ, que les croyants sont justifiés et que les croyants sont sanctifiés. Mais alors, je vous disais que la conception que Luther se fait de la vie chrétienne est toujours dialectique. Il y a un théologien, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne crois pas, honte à moi, je sais pas. Il y a un théologien qui a fait un excellent bouquin, mais c'est plutôt de la théologie de la spiritualité, mais sur cette tension, justement. Plusieurs aspects, c'est très important chez Luther, c'est en permanence dans la pensée de Luther, plusieurs aspects sont vrais en même temps. Selon qu'on les considère d'un point de vue ou d'un autre, du point de vue de l'homme ou du point de vue de la grâce. Alors, on connaît une formule très célèbre, je vous la dis en latin parce que là, célèbre, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur. L'homme est à la fois, et pour Luther, l'homme restera toujours, d'une certaine manière, à la fois dans ce monde, juste et pécheur. La foi, je veux dire, ne fait pas passer le chrétien d'un état à un autre. C'est quelquefois ça, dans certaines traditions chrétiennes, on a beaucoup insisté là-dessus, avec cette idée au fond, et quelquefois dans la manière dans le monde évangélique de donner son témoignage, il peut y avoir, ça peut induire quelquefois un peu ça. Vous savez, autrefois j'étais un abominable pécheur. Et alors vous voyez le jeune chrétien, finalement tout mignon, tout sympathique, mais qui va noircir le tableau terrible pour montrer à quel point le Seigneur l'a ramené. Oui, il a fait les bêtises qu'on fait tous les enfants, tous les jeunes, mais voilà. Mais il faut bien dire quelque chose pour montrer à quel point. Mais maintenant, alors, ma vie est un jardin fleuri rempli de roses, tout baigne, etc. Ça, on sait bien, dès qu'on a un tout petit peu d'expérience chrétienne, que c'est bidon, que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Que c'est comme ça qu'on le ressent à certains moments, mais ça dure rarement. Et Luther insiste sur le fait que on est à la fois juste et pécheur. Je suis pécheur devant Dieu, et je resterai pécheur. Et je reste pécheur. Et en même temps, je suis juste par grâce aux yeux de Dieu qui me voit en Christ. Alors, c'est une perspective très importante parce qu'elle est très importante et donc elle est dangereuse. Les choses les plus importantes, les choses qui entraînent le plus de conséquences, sont en général les choses les plus dangereuses, parce que c'est aussi les choses qui entraînent le plus d'âneries à travers l'histoire. Vous voyez, quand un mot devient un slogan, il faut toujours se méfier, parce que la dynamique profonde n'y est pas forcément. Je vous disais, il y a une erreur possible, c'est de dire, au fond, avant j'étais pécheur et maintenant je ne suis plus. Maintenant je suis croyant. C'est bien que c'est pas vrai. Mais je crois qu'il y a un danger inverse, symétrique. Et je ne dirais pas que la tradition qui a suivi Luther n'est jamais tombée là-dedans. C'est de voir le simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur, comme une réalité statique. C'est-à-dire, je suis pécheur, et oui, voilà, je suis pécheur, je serai toujours pécheur. Je sais bien, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, je suis pardonné. Et rien ne bouge. Et ça... c'est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit, ou certains d'entre vous ont sans doute lu cet admirable petit bouquin de Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce. Et toute l'introduction du prix de la grâce, c'est une critique terrible de ce qu'il appelle la grâce à bon marché. Et là, c'est ça. La grâce à bon marché, c'est la mauvaise interprétation du à la fois juste et pécheur. C'est-à-dire, finalement, voilà, l'Église est... ne s'adresse qu'à des pécheurs qui sont censés être pécheurs et rester pécheurs jusqu'à la fin des temps, et l'Église est un instrument de distribution de la grâce de Dieu qui est là pour ça. Il pardonne, voilà. C'est, en fond, la perfection dans la médiocrité. C'est un risque, c'est un risque, je dirais, que la pensée de Luther, qui n'est pas du tout chez Luther, mais que la pensée de Luther, résumée à une formule, peut effectivement aboutir. En fait, le Simon vieux, le à la fois juste et pécheur, doit être compris, pour être compris dans la manière de Luther, de manière dynamique. C'est-à-dire, non pas comme un état fixe, mais un peu comme une spirale, comme une réalité. Je suis toujours pécheur et toujours pardonné. Et plus je suis dans la grâce, plus je vais prendre conscience de la profondeur de mon péché. Et plus je vais prendre conscience de la profondeur de mon péché, plus je vais en prendre conscience, je dirais, d'une manière supportable et heureuse, parce que je sais que la lumière de Dieu qui éclaire la profondeur de mon péché est en même temps la lumière de Dieu qui dit sa grâce et son amour. Et au fond, plus j'avance dans la grâce, plus au fond le projecteur va éclairer des zones d'ombre plus profondes et plus je vais prendre conscience de mon péché. Ce qui fait qu'on a cette situation qui dans le christianisme est une situation banale, c'est que finalement c'est le plus grand saint qui est généralement le plus conscient de son péché. Et que là où quelqu'un comme vous et moi trouvera que tout va bien, finalement celui qui a une sensibilité extrêmement affiné va prendre une conscience aiguë que justement ça va pas bien et qu'il y a un problème devant Dieu. Et l'autre formule qui est plus complète et qui au fond évite, me semble-t-il, cette médiocrité, c'est une formule, je vous l'ai dit aussi en latin, ça c'est pour le plaisir, parce que voilà, les luthériens elles ressortent souvent en latin. Il fallait bien garder le latin quelque part, ils l'ont enlevé de la liturgie, donc ils l'ont mis dans un certain nombre de formules. Hein. C'est Semper peccator, semper penitens, semper iustus, c'est-à-dire toujours pécheur, toujours pénitent, toujours repentant et toujours juste. C'est pas statique, c'est pas je suis pécheur et je suis satisfait d'être pécheur dans la médiocrité et Dieu pardonne. C'est je suis pécheur, je suis repentant de ce péché et je suis dans la grâce. Et alors cette dialectique, elle trouve une très belle expression dans la première page de ce traité de la liberté chrétienne. Si vous y a, dont je vous parlais, s'il y a un livre de Luther, un texte de Luther, c'est pas un immense bouquin, un texte qu'il faut lire, si vous en avez qu'un, il y en a un bon nombre, mais si vous en avez qu'un, il faut lire le traité de la liberté chrétienne. Et il dit ceci, et c'est typique de la pensée de Luther, un chrétien est un libre seigneur de toutes choses et n'est soumis à personne. Un chrétien est un libre seigneur de toute chose et n'est soumis à personne. Et la phrase suivante, un chrétien est un serfin, corvéable en toute chose et il est soumis à tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, en Christ, à cause de la grâce, je suis libre et je suis soumis à rien. Je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, etc., etc., etc. Et puis en même temps, par amour, alors je dois me faire le serviteur de tous. Mais la réalité chrétienne, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas je suis soit par amour serviteur de tous, etc., etc., et puis on s'arrête là, ou bien au contraire, je suis seigneur et libre de toutes choses. Non, je suis les deux. Et je crois que c'est quelque chose de très sain et très juste, je crois, justement d'avoir conscience des deux en même temps. Comme je vous le disais, plus je vais avoir conscience de la grâce, de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu et de ma libération totale, plus je vais avoir de facilité pour prendre conscience de la réalité de mon péché, et plus j'aurai conscience de la réalité de mon péché, plus je vais avoir conscience de la profondeur de la grâce. Alors, cette grâce, elle débouche sur une union au Christ. C'est pas juste de l'ordre du juridique. Et ça, c'est aussi le danger d'une certaine pente luthérienne. Quand je dis luthérienne, je ne parle pas de Luther, je parle au fond d'une interprétation qui a été donnée. La justification par la foi, elle a un caractère juridique, c'est clair. Hein? C'est-à-dire, je suis quelqu'un de pécheur devant le juge Dieu, et dans sa grâce, Dieu me pardonne. Et au fond, l'image de la grâce au sens du... Je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais... je dirais du roi ou du président de la République qui gracie le coupable, c'est quand même, ça fait partie de ça, je dirais, hein, parce que le juge prend sur lui finalement la faute. Bon. La justification, elle a un caractère juridique, mais il serait faux, et je crois que ça c'est un des dangers protestants, ça peut l'être, de ne la considérer que sous cet angle. la foi suscite, et là on retrouve une dimension, entre guillemets, mystique, qu'on a retrouvée chez les auteurs dont on a parlé, hein, que ce soit les mystiques rénans, Eckhart, Toller, Thérèse d'Avila, etc., etc., François d'Avila, tous. La foi suscite une union au Christ, qui est une réalité spirituelle. Et alors, c'est ce que ce traité de la liberté du chrétien affirme fortement. Il dit ceci. Non seulement la foi obtient que l'âme, à l'image de la parole divine, soit comblée de toutes les grâces, libre et bienheureuse. C'est déjà pas mal, je vois. Déjà, si on était voilà, comblé de toutes les grâces de Dieu, libre et bienheureux, voilà, déjà pas mal. Mais non seulement ça. Mais elle unit encore l'âme au Christ. Elle unit l'âme au Christ comme une épouse est unie à l'époux. C'est pas très protestant, ça. Hein, on n'a pas ça dans l'oreille. Dans le protestantisme, en général, on a l'idée l'époux, l'épouse, c'est l'Église et le Christ. Mais l'âme et le Christ, ça sonne un peu catholique. Comme, mais bon, c'est quand même luthère. Hein, pas mal, comme protestant. Donc, elle unit l'âme au Christ comme une épouse est unie à l'époux. La conséquence de ce mariage est, comme dit saint Paul, que le Christ et l'âme ne font plus qu'une seule chair. Hein, c'est à partir d'Éphésiens 5, 30. Les biens des deux conjoints sont ainsi mis en commun. Leur chance et leur malchance, donc leur bonheur et leur malheur, on pourrait dire, en toute chose et toute chose. Ce qu'a le Christ est la propriété de l'âme croyante, ce qu'a l'âme devient la propriété du Christ. Ainsi, le Christ est possesseur de tout bien et de toute félicité, l'âme en a la propriété. Ainsi, l'âme ne détient que mal et péché, ils deviennent la propriété du Christ. On a l'impression là qu'il y a une union, on pourrait dire une union mystique, hein, une union entre l'âme et le Christ. Au fond, on a presque envie de... On pourrait signer ça, on pourrait imaginer Maître Eckhart dire des choses assez proches, hein, en parlant probablement différemment. Ça veut dire que l'union au Christ est une réalité spirituelle fondamentale. Il y a une sorte de communion et d'échange. Hein, et parce qu'il y a cette union, au fond, toute la grâce, toute la gloire, toute la... tout ce qui est magnifique dans le Christ, au fond, d'une certaine manière, m'est communiqué. On retrouve, vous savez, tout ce que la tradition orthodoxe, patristique, orthodoxe, occidentale aussi, souligne quand elle parle, au fond, de la divinisation. C'est un peu ça, la participation à la nature divine. Hein. Donc, ça, et en même temps, il y a l'échange en sens inverse. C'est-à-dire que mon péché, ma faiblesse, tout ce qui est en moi, c'est le Christ qui le prend et qui le porte, et qui m'en libère. Donc cette union au Christ, elle est transformante, et elle débouche sur une vie. Et Luther considère que la parole de Dieu, elle est loi et évangile. C'est-à-dire que la parole de Dieu, il a toujours cette... Il fonctionne toujours au risque quelquefois de réduire un peu la réalité, hein, mais toujours avec ces deux éléments, toujours très dialectiques. La parole de Dieu, elle est loi, c'est-à-dire qui révèle le péché et qui condamne, et en même temps, elle est évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle de la grâce, annonce de l'amour de Dieu. Mais le chrétien, en quelque sorte, lui, il est libéré de la loi par le Christ. Et d'une certaine manière, il n'a plus à lui obéir. Ça va être un grand débat entre Luther et Calvin, on en dira un mot quand on parlera de Calvin, le rapport entre la loi et l'évangile, et surtout le rapport à la loi. Pour Luther, au fond, la loi est nécessaire pour amener à l'évangile. Mais quand on est dans la grâce, alors finalement, on est libéré de la loi. Et Luther va interpréter les passages de Paul dans l'Épître aux Galates, etc., qui parlent de ça de manière très, très radicale. Au fond, le chrétien, il n'est plus sous la loi, il n'a plus à obéir en quelque sorte à la loi, ce qui ne veut pas dire du tout que le chrétien ne doit pas faire d'œuvre en quelque sorte, ni que la foi dispense de l'amour et du service du prochain, ça serait le danger, hein, puisque la grâce abonde, à quoi bon tout ça, on serait très très loin de l'esprit de Luther, de la pensée de Luther. Et précisément, c'est l'esprit de Dieu, qui, donnant la liberté, affranchit du péché et va susciter dans le croyant les œuvres qui seront l'expression d'une joyeuse reconnaissance. C'est le Saint-Esprit qui va, de lui-même, si j'ose dire, susciter dans le croyant l'amour. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. C'est, au fond, le travail du Saint-Esprit. Alors, la réalité humaine, hein, c'est souvent que, vous savez, l'amour, c'est à la fois un commandement et un don. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, etc., ton prochain comme toi-même, et en même temps, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, s'il fallait peser les deux, on pourrait dire, dans la tradition de Luther, dans la pensée de Luther, la balance penche très fortement sur le fruit de l'esprit. Hein, l'amour, c'est le Saint-Esprit qui va le créer en vous, on n'est plus sous la loi. Chez Calvin, Calvin va mettre l'accent quand même sur le commandement aussi, hein, et sur la nécessité de la loi. Et alors, il exprime ça aussi dans un très beau texte, toujours dans ce même traité de la liberté du chrétien. Eh bien, pour un tel Père, qui m'a ainsi comblé de ses dons surabondants, je veux faire en retour librement, joyeusement et gratuitement tout ce qui lui est agréable. Et à l'égard de mon prochain, je veux devenir un Christ, comme le Christ a été pour moi, et ne rien faire d'autre que ce que je vois lui faire besoin. Être utile pour lui et profitable à son salut, puisque par ma foi j'ai de toute chose ma suffisance dans le Christ. Voilà qu'alors jaillissent de la foi l'amour et la joie en Dieu, et de l'amour une existence libre, spontanée, joyeuse, qui se vaut gratuitement au service du prochain. Donc un texte quand même aussi magnifique, avec cette, au fond ce jaillissement, on pourrait dire là, spontané, hein, de l'amour comme une conséquence inévitable, en quelque sorte, de l'Évangile. Mais alors vous imaginez bien, je dis ça pour introduire déjà le piétisme, le réveil piétiste, vous imaginez bien à quel point tout ça, autant c'est magnifique quand c'est vécu, autant toute cette formule, toutes ces formules, si vous enlevez l'expérience spirituelle qui est dedans, mais il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste justement un danger de médiocrité assez fort. Pour terminer, je voudrais simplement reprendre une page de Lucien Febvre. Lucien Febvre, c'est un historien qui a écrit un très beau livre. Je crois bien d'ailleurs, peut-être certains de vous me corrigeront, un historien tout ce qu'il y a de plus académique et non-croyant, je ne crois pas particulièrement chrétien, hein, mais qui a écrit un très beau livre d'histoire sur Luther, qui s'appelle « Un destin, Martin Luther », qui est un vieux bouquin, hein, qui doit dater, je sais pas, moi j'ai une vieille édition, des années 50, mais qui a été réédité en livre, vous savez, des éditions quadriges, là, au puf, enfin un livre facile à trouver, genre poche. Et alors, il décrit cette dynamique de la spiritualité luthérienne qui devait pouvoir être la nôtre, qui devait pouvoir être la dynamique, je dirais, de tous les protestantismes. Il dit ceci, justification par la foi. Cette formule d'apparence inerte, on voit en réalité ce qu'elle renferme d'énergie et de dynamisme. On voit ce qu'elle contient en puissance de confiance joyeuse, d'élan, d'invincible assurance. On voit, à la veille des événements de 1517, donc des événements historiques qui vont déclencher la réforme, ce qu'elle exprimait pour un Martin Luther, la conviction d'avoir Dieu pour lui, avec lui, en lui, un Dieu qui n'était pas la justice immanente des théologiens, mais une volonté active et rayonnante, une bonté souveraine agissant par amour et se donnant à l'homme pour que l'homme se donne à Dieu. Voilà, tout texte qu'on pourrait imaginer. Je verrais assez bien sous la plume d'un grand spirituel, je crois qu'il est un texte d'historien qui a une sympathie manifeste pour Luther et qui, je crois, a une compréhension tout à fait remarquable. Donc je crois qu'il y a, là une des expressions, je crois, les plus belles, les plus profondes, les plus universelles aussi, de la foi chrétienne, mais encore une fois, à condition de la conserver dans l'esprit dans lequel Luther l'a vécu et l'a enseigné. Et pas en faisant des articles de dogmatique sur la justification par la foi, etc., où finalement il ne reste pas grand-chose. L'histoire donc montre qu'elle peut glisser vers la facilité, aboutir, c'est ce que je disais, à la grâce à bon marché de Bonhoeffer. Et vous allez voir à quel point, aussi bien chez Spener, aussi bien chez Wesley, etc., on va retrouver, et puis chez des tas de gens moins historiques, je veux dire moins célèbres, au fond, et même peut-être dans l'expérience même des uns ou des autres d'entre vous, hein, c'est la redécouverte de ça qui fait très souvent la naissance ou la renaissance dans une vie chrétienne. Je dis renaissance, pas seulement au sens de nouvelle naissance, mais au sens de renouveau, d'une foi, renouveau de la vie chrétienne. Pour terminer, ce n'est pas dans le texte, mais je vous parlais tout à l'heure de Thérèse de Lisieux. C'est vrai que Thérèse de Lisieux, vous savez, Thérèse de Lisieux, c'est donc cette, j'ai envie de dire petite sainte, parce qu'elle est morte gamine, elle est morte, elle avait 23 ans, 5 ans, enfin voilà, jeune en tout cas, qui au tournant du siècle, donc entre le 19e et le 20e siècle, à Lisieux, petite ville normande, va devenir donc une des grandes saintes du catholicisme. Et alors, Thérèse de Lisieux, ce qui est amusant, je trouve, c'est que, ce qui est amusant parce que, surprenant, le protestant moyen que j'étais, je suis toujours sur plein de choses, que j'étais en la matière, quand il pense à Thérèse de Lisieux, il pense à un truc vieillot quand même, un côté bonbon sucré, un côté plein de petites fleurs partout, pas vraiment. Et puis quand vous passez là-dessus et que vous lisez vraiment ce qu'elle a écrit, vous vous rendez compte qu'elle a dit et vécu des choses qui, à mon avis, sont du pur luthéranisme, au meilleur sens du terme, la même expérience spirituelle. Elle a été élevée avec Jean de la Croix comme modèle, hein, les Carmes. Bon. Et donc Jean de la Croix, vous rappelez la montée du Carmel, une montée un peu raide. Hein, bon. Et quand elle lisait ça, elle se dit, fichtre, ça c'est les œuvres au sens, c'est un peu Luther devant l'exigence de l'évangile. Et alors elle dit, au fond, ce chemin, moi je suis trop petite, absolument incapable de le suivre. Alors j'ai trouvé un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est un ascenseur. Aujourd'hui, un ascenseur, ça paraît tout bête. À l'époque, c'était la dernière nouveauté, là. Hein. C'est comme, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, pour parler de quelque chose de tout à fait, c'est comme la capsule, un vaisseau spatial, hein. Mais c'est le truc nouveau. Il dit, l'ascenseur, vous savez, c'est le truc, quand vous êtes dans les maisons des riches, là, vous rentrez, puis, tout de suite, vous y retrouvez, pas fatigant. Mais il dit, l'amour de Jésus-Christ, c'est mon ascenseur. J'arrive, je me jette dans ses bras, je lui fais confiance, et c'est lui qui va faire le travail. Au fond, dit, dans un langage qui n'a rien à voir avec le langage de Luther, mais je crois que c'est la même idée, très profondément. C'est l'idée de la prise de conscience bouleversante, à la fois de l'immense exigence de Dieu, et en même temps, de l'immense grâce du Dieu qui va nous donner tout ce qu'il demande. Vous savez, Dieu qui donne ce qu'il redonne. Que la grâce, finalement, permet de vivre cette exigence dans la sérénité, dans la joie, parce que, justement, c'est Dieu qui fait le boulot. C'est Dieu qui, c'est Jésus qui est sur la croix, je dirais, et c'est Dieu qui, de A à Z, en quelque sorte, a fait le travail. À nous, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer, qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire, en tout cas, que nous avons à rentrer dans un courant, à nous laisser faire beaucoup plus qu'à faire. Et au fond, il me semble que ce que dit Thérèse de Lisieux, ben, c'est du Martin Luther, c'est la même chose. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouverait chez d'autres, qui est universel. Ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire de l'Église, on a toujours eu tendance à l'oublier et remplacer cette expérience par des œuvres méritoires. Et au fond, le protestantisme, ça fait des siècles qu'il va réinventer en permanence. Et les évangéliques font ça très bien aussi. On a des formes de légalisme lourdes ou subtiles, mais on en réinvente en permanence, et même dans à titre quelquefois purement personnel même, chacun a son légalisme à lui, on réinvente ça et on a toujours besoin de redécouvrir, au fond, cette justification par grâce, cette théologie, cette spiritualité de la grâce qui est celle de Luther. Voilà, alors la littérature de Luther, elle est surabondante, vous trouvez en français, si vous êtes absolument passionné, les œuvres complètes qui sont en cours de traduction, c'est quand même un gros paquet, il faut quand même être assez motivé quand même pour se lancer dans ce genre d'achat. Si vous êtes moins motivé quand même, et peut-être moins riche, vous avez quand même un admirable livre de la Pléiade, où il y a quand même de magnifiques choses. Vous savez, la Pléiade, c'est cette édition chez Gallimard, où il y a plein de choses. On attend désespérément un deuxième tome qui est censé venir, je crains que Voilà, achetez vite la Pléiade pour donner l'impression à l'éditeur que ça vaut le coup d'en faire un second tome. Je crois que c'est ça là où est le problème. Où vous avez quand même énormément de textes magnifiques, avec traduits et commentés par les meilleurs spécialistes de Luther d'aujourd'hui. Sinon, alors vous avez des livres. Là, je vous montrerai. Je vais en livre de poche les grands écrits réformateurs, le traité de la liberté du chrétien. Vous trouvez ça très très facilement. Et donc là, c'est Garnier Flammarion, mais vous en avez d'autres. Vous avez alors, comme biographie de Luther, Un destin Martin Luther de Lucien Febvre, qui est magnifique. Vous avez tous les grands classiques. Henri Stroll, c'est des livres déjà anciens, mais qui sont très beaux. Albert Greiner, alors, a fait écrire beaucoup de livres. Un petit bouquin introuvable, si vous le trouvez en d'occasion. Martin Luther aux limites à la grâce, ça c'est un bijou. Magnifique livre. Et puis Marc Linhart, c'est au fond... Je dirais un des principaux spécialistes de Luther aujourd'hui. Tout est bien, beaucoup de choses très bien. Et vous avez Martin Luther, Un temps, une vie, un message. C'est au fond là, la vie, la pensée, la spiritualité de Luther. Il y a au fond beaucoup d'autres. Je pensais à un livre, voilà, je ne l'ai pas noté, son auteur m'échappe, qui est publié chez Labor et Fides, qui s'appelle Luther. C'est un théologien allemand, post-bultmannien, au secours, mes frères et sœurs. Comment ? Non. Allemand. Post-Bultmannien. Très connu. Ebling. Qui a écrit un bouquin sur Luther. Et il faut être un petit peu théologien. Mais si vous êtes un petit peu théologien, c'est génial. Vraiment génial. Parce qu'il aborde plein de sujets, toujours sous cet angle de la dialectique entre deux pôles. Voilà. Donc très éclairant. Et quand même pas... c'est pas hermétique, je dirais. Mais on dépasse un peu la spiritualité pour rentrer dans la pensée de Luther plus profondément. Voilà, il nous reste encore un bon moment quand même, si on veut échanger sur ce sujet. Donc, je comprends que vous ayez envie d'aller au lit aussi, hein, donc je ne vais pas vous frustrer du repos nécessaire.